C'est pas sorcière. 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 C'est pas sorcière.
C'est pas sorcière.
C'est pas sorcière.
Coucou.
Moi c'est Marion.
Et je suis Louise.
Bienvenue dans C'est pas sorcière.
Le podcast qui explore l'histoire de la sorcellerie
et les pratiques ésotériques.
Et bon retour de vacances.
Et bonne rentrée. C'est la rentrée.
Ça devait arriver. L'épisode sort fin septembre, mais pour nous, c'est la rentrée, après la pause estivale.
Oui, c'est la rentrée du podcast.
Est-ce que tu es partie en vacances, Marion ?
Oui, je suis partie une semaine avec une amie à côté de Lyon.
Ah, je suis jalouse.
Toi aussi, non ?
Bah moi, je suis partie une semaine avec une amie à côté de Lyon.
C'est fou, ça.
Oh là là, quelle coïncidence.
On est vraiment hilarante.
Quel humour, quel humour.
Si vous aviez pas compris, c'est parce qu'on est partis en vacances ensemble. J'explique la blague parce que... Voilà.
Pour la team premier degré qui...
dont je fais partie parfois.
On l'est tous. On annonce quand même les petites modifications de la rentrée. On le fait d'entrée de jeu ou on le garde pour la fin d'épisode?
Oh, on peut l'annoncer d'entrée de jeu, c'est dans les annonces de rentrée. À l'ordre du jour...
Acheter un cahier 24-32, petit carreau.
Des protège-cahiers. Du coup, l'annonce, c'est que on va faire cette année un podcast tous les 2 mois au lieu de un podcast tous les mois. Parce que je n'arrivais pas à suivre. Voilà.
Parce que Marion a une vie. Et comme moi, je n'ai pas de vie, et ben en fait... Tous les mois où il n'y aura pas d'épisode classique de C'est pas sorcière, je vous proposerai un épisode spécial où je prendrai le micro et pour combler l'absence de Marion, je le tendrai à des personnes qui nous parleront de sorcellerie sous différents angles. Je n'en dis pas plus, vous découvrirez ça quand ça sortira.
Nous avons une relation ouverte dans ce podcast.
C'est très simple.
Louise avec d'autres gens.
Étant donné que je ne veux de relation avec personne, c'est très étrange. Laissez-moi tranquille, madame.
Oui, la comparaison était peut-être un peu foireuse, mais en tout cas...
Vous avez l'idée.
C'est juste pour dire que je serai à temps partiel.
Et du coup, pour cette rentrée, de quoi tu as prévu de parler ?
J'ai prévu de parler de bruit. Non, c'est général. J'ai prévu de parler de magie du son, de magie du chant, de la musique, des vibrations.
Oh !
Ouais, je
trop
me suis
bien.
Un peu chauffée.
C'est hyper original. Je suis curieuse.
Et toi, tu vas parler de quoi ?
Moi, je vais te parler d'une histoire irlandaise.
Oh oui, l'Irlande ! Hyper fan de l'Irlande avec mes collègues. Si jamais elles écoutent ce podcast, je pense pas qu'elles écouteront, je leur fais coucou. En fait, on a un petit fan club avec quelques collègues de l'Irlande.
C'est un très bon pays, très bonne culture.
Ouais.
Est-ce que 80% du fan club, c'est des citations de Derry Girls?
Oui.
Of course. Très bonne série pour ceux qui n'auraient pas la référence.
Qui se trouve sur Netflix et qui est vraiment aussi hilarante que intéressante et enrichissante, avec de l'histoire.
J'ai mis les sous-titres parce que, mon Dieu, les accents.
Ah ouais. C'est un bonheur.
Et du coup, c'est parti ?
Ah oui, on y va tout de suite.
Donc, comme vous le savez très bien, si vous écoutez nos épisodes, les chasses aux sorcières, c'est à la Renaissance, pas au Moyen-Âge. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire du Moyen-Âge, voilà.
C'est vrai ?
Oui.
Oh, alors,
c'est
cool.
Pas un anachronisme, c'est juste qu'en fait, les chasses aux sorcières, elles sont pas apparues du jour au lendemain. Elles ont puisé leurs sources dans les croyances, dans les coutumes du Moyen-Âge. Et du coup, même si c'était plus rare et épisodique qu'à la Renaissance, il y a eu aussi des procès de sorcellerie au Moyen-Âge. C'est là qu'ils prennent leur source, c'est là qu'il y a eu les premières condamnations. Et donc, je vais te parler du premier jugement pour sorcellerie en Irlande.
Ouh, ok.
Donc cette histoire, elle implique deux protagonistes qui sont Dame Alice Keitler, qui est une noble anglaise.
Ok.
Et Petronilla de Meath, qui est sa servante.
Et qui est anglaise aussi ?
qui est irlandaise aussi.
Ok. Bah, je suis pour l'Irlande dans cette histoire. Hein. Je ne sais pas si vous aviez entendu.
Alors, spoiler, une des deux va mourir, à ton avis, entre la noble et la servante, laquelle
Ah oui, c'est toujours les servantes qui meurent en premier.
Bingo, tu gagnes 10 points de somme.
Les servantes, les irlandaises, les pauvres. Yes.
Donc, on va commencer avec, avec l'histoire d'Alice. Donc, Alice Keiteler, c'est une noble anglaise. Pas irlandaise, surtout pas dire ça. Une noble irlandaise, née en 1263 dans le comté de Kilkenny.
Ah, mais attends, t'avais dit qu'elle était anglaise tout à l'heure.
J'ai dit anglaise tout à l'heure ?
Ouais, il faudra juste que tu modifies le...
Non, non, vas-y, je le garde, c'est drôle.
Elle est donc irlandaise.
Elle est donc, elle est bien née à Kilkenny en Irlande. Et elle a été mariée 4 fois.
Oh.
Elle a eu un fils biologique et de nombreux beaux enfants.
D'accord.
Seulement, déjà dès le début de l'histoire, quand elle va se remarier, elle et son deuxième mari vont être accusés d'avoir tué le premier mari.
Ok.
Ça commence pas très bien.
Mais il y a une raison particulière, est-ce qu'on pense ça ?
Parce que c'était une personne riche qui est morte assez jeune et elle s'est remariée tout de suite après.
Ok. Bon, effectivement, ça peut éveiller quelques soupçons, mais bon,
ça
peut arriver aussi.
En plus de ça, Alice, elle n'est pas très populaire parce qu'elle est riche. Et en plus, elle prête de l'argent à rendre avec des très gros intérêts pas très honnêtes.
Mmh, d'accord.
Donc, en gros, c'est un peu une banquière avec un taux bien nul. Donc on peut comprendre qu'elle n'est pas très populaire. Mmh. Donc elle deuxième mari... Troisième mari, quatrième mari, et quand son quatrième mari tombe malade en 1324, les gens se disent que ça commence à faire beaucoup de maris morts pour une banquière.
C'est vrai que c'est une drôle de coïncidence, vraiment pas de chance.
Parce qu'évidemment, à l'époque, on ne divorçait pas. Hein. Si elle a eu 4 maris, c'est que les 3 premiers sont morts.
Ouais.
Donc, les enfants des 4 maris, donc tous ces beaux enfants, ils vont l'accuser d'avoir utilisé du poison et de la sorcellerie contre les papas. Donc, les 3 premiers décédés et le 4e qui semble être empoisonné.
Ok.
Et ils vont donc porter cette affaire avec exactement 7 chefs d'accusation contre Alice. Alors, j'ai ressorti la petite liste des 7 chefs d'accusation. Numéro 1, elle est accusée d'avoir renié la religion et le Christ.
Évidemment,
vu que c'est une époque où tout est très lié avec la religion.
Fait toujours son petit effet.
En numéro 2, elle a sacrifié des animaux à des démons. Ce qui, moi, je suis d'accord, le sacrifice d'animaux, accusation.
Nul. Bon, après, à des démons, on n'est pas sûr. Hein.
En numéro 3, elle a demandé à des démons des conseils pour sa sorcellerie, donc pour pouvoir bien réussir ses sorts. Donc j'imagine qu'elle a fait 36-15 démons.
Le Yahoo des démons. C'est très drôle.
En 4, elle a eu des relations charnelles avec un incubus, le truc classique des accusations de sorcellerie.
Ils ont trouvé l'incubus et ils l'ont interrogé. Et il a dit oui, c'est vrai.
Ouais, j'étais rencontré sur Tinder. Et...
Ça matchait tout de suite.
En 5, elle a tenu des réunions de coven, donc des réunions de groupes de sorcières, dans une église la nuit sans permission. Et j'aime beaucoup le sans permission, parce que peut-être que si elle avait demandé, ils auraient pu dire oui.
Très très drôle.
En 6, elle a réalisé des potions avec des ingrédients horribles, tels que des morceaux de bébés non baptisés, des ongles ou des
morceaux
poils
de bébés non baptisés. Que du coup, c'est pire comme morceau de bébé que juste des morceaux de bébé standard.
Bah, c'était une croyance qui a duré très longtemps, le fait que quand ton bébé n'est pas baptisé, du coup, il n'est pas protégé.
Ouais,
et donc, potentiellement, ça va lui attirer des noises, donc entre autres des sorcières qui vont utiliser.
Que c'était un truc utilisé.
Tu le notes pour ta prochaine potion.
Non.
Et sinon, il y avait aussi dans la liste poils de fesses que ça m'a beaucoup fait rire.
Oh, il a un.
Ouais. Enfin, le dernier, en 7, elle est accusée d'avoir ensorcelé et tué ses maris pour garder leur argent et aussi pour favoriser, parce que je t'ai dit tout à l'heure, elle avait un fils biologique de son premier mari. Donc le fait d'amasser de l'argent, ça favorise ce fils.
D'accord. Évidemment, comme... j'imagine que les... Comment on dit ? Les autopsies, ça se faisait pas à l'époque.
Ou alors pas de la même manière qu'aujourd'hui. Prenez un petit bâton, il tapait le cadavre et il est bien mort.
Je si le confirme. Si vous trempez le pied dans l'eau et que l'autre pied n'est pas mouillé, c'est le diable.
Ça marche. Comme je t'ai dit tout à l'heure, je t'ai parlé de Coven, donc tu doutes que Alice, elle va pas être accusée toute seule. Ouais. Il va y avoir également un groupe de ses proches qui va être accusé. Parce qu'on va penser qu'ils sont membres de ce coven. Et parmi eux, celle dont je parlais au tout début, la servante d'Alice, qui est Petronia de Myth. Et dans les autres accusés, il y a aussi la fille de Petronia qui est accusée, oui. J'ai pas de synonyme d'accusée.
Inculpée,
ouais, c'est
ça
pas mal.
Ça veut pas dire la même chose juridiquement, ouais, je crois. Mais bon.
On pointe du doigt.
Voilà. Qui est dans la sauce.
Oh, je garde. Ce procès, il va être porté devant l'évêque d'Ossory, qui s'appelle Richard de Ledruid. Je sais probablement pas comme ça qu'on prononce en irlandais, mais ça ira pour mes critères. Et le quatrième mari d'Alice, donc celui qui est empoisonné, elle a épousé plein de gens très riches et avec plein d'influence, il va utiliser son influence pour éviter que Alice soit arrêtée. Pas rancunier le mec, il est en train de mourir d'empoisonnement, il dit non, c'est bon, c'est pas elle, on va éviter de faire en sorte que ma femme soit accusée de sorcellerie.
Ouais.
Donc il va jouer une carte contre Uno et réussir à faire emprisonner Richard de Ledré, donc celui qui voulait emprisonner Alice. Pendant 17 jours.
Ok.
Mais le destin va relancer avec un changement de sens et le mari d'Alice va décéder suite à cet empoisonnement.
Oui, c'était à prévoir.
Du coup, Richard de Ledré, il va être, suite à ses 17 jours de prison, libéré et plutôt énervé d'avoir été emprisonné. Donc, il va reprendre ses attaques contre Alice, sauf que maintenant, elle est plus vulnérable vu qu'elle est veuve et qu'elle n'a plus un mari puissant qui peut la protéger. Mais elle reste quand même noble. C'est Dame Alice Keitler, s'il vous plaît.
Chic.
Du coup... pour tenter d'obtenir une confession, il va se tourner vers les personnes moins puissantes parmi les accusés, dont la servante d'Alice, Petronia de Myth. Et donc c'est la pauvre Petronia qui va se retrouver torturée et qui, évidemment, comme toujours, va confesser, accuser sa maîtresse. Elle sera ensuite fouettée et ensuite brûlée le 3 novembre 1324 à Kilkenny.
C'est dingue qu'on ait encore des traces écrites de ça, de 1324, quoi. Ils auraient très bien pu ne pas nécessairement avoir de documents à propos de ça et qu'on ne les garde pas entre-temps, c'est quand même dingue.
Et ben là, du coup, les traces qu'on a, ça vient de l'évêque qui a porté cette affaire et qui a tout consigné.
D'accord.
On pense aussi que du coup, c'est le premier cas d'une condamnation par le feu pour sorcellerie dans les îles britanniques.
D'accord. C'était pas comme, le cas en Europe, il y en avait eu plein d'autres, j'imagine.
Il y en a eu d'autres en Europe, et comme tu disais, on peut jamais être sûr que c'est vraiment le premier cas, parce qu'on n'a pas forcément toutes les archives avant 1324, quoi.
Voilà. Quand on a une trace.
Le destin d'Alice, il va être un petit peu moins tragique que sa servante. Justement, pour le coup, vu qu'elle n'est plus accusée, on n'a pas vraiment de traces. Donc, on pense qu'elle a fui l'Angleterre et qu'elle l'aurait fait avec la fille de Petronia. Et elle aurait élevé la fille de Petronia, qu'elle aurait pris donc, sous son aile.
Oui, sans doute pour être sa servante aussi. Enfin, pas de...
C'est pratique.
Alors, il y a différentes versions. En fait, on trouve quelqu'un avec le nom, même nom de famille que Petronia. Du coup, on pense que c'est la fille, mais on n'est pas sûr. Et puis surtout, on ne sait pas ce qui s'est passé à partir du moment où elle aurait fui. Donc, c'est, je pense que c'est juste l'histoire de dire, regardez, elle a soutenu la fille de sa servante. Par contre, le fils d'Alice, qui était aussi accusé, va lui être excommunié. Et il va subir une courte peine de prison. Et quant à l'évêque, Richard de Lèdre, il va faire beaucoup d'autres procès injustes et cruels tout au jour de sa carrière. Et cette carrière sera beaucoup marquée de controverses. Donc lui, il continue sur sa lancée.
On ne change pas une équipe qui gagne, hein, Louise.
Le fils d'Alice, par contre, il va réussir à revenir dans l'église, donc à renverser son excommunion plusieurs années après, donc pouvoir être réintégré dans la société.
Bon, c'est déjà ça.
Voilà. Du coup, si Alice, c'était pas une sorcière, on peut cependant avoir des doutes sur sa totale innocence, vu qu'elle a tout de même épousé quatre hommes très riches qui sont décédés peu de temps après leur mariage, qui lui a permis de gagner beaucoup d'argent et de se remarier très rapidement juste après. Il y a quand même Anguille sous roche.
Et puis, le fait qu'elle aurait dénoncé des gens qui faisaient partie d'un coven, elle a certainement dû avoir de l'aide pour faire ses empoisonnements, si c'était des empoisonnements. Et il n'y a sûrement pas qu'elle qui était impliquée, même si c'était peut-être pas forcément sa servante, on ne sait pas.
Je ne sais pas si elle a dénoncé des gens ou si c'est juste on a accusé des gens autour d'elle.
Ah oui, ok, d'accord.
J'ai pas l'info. Justement, la pauvre Petronia, elle va être, elle était ni riche ni puissante. Du coup, ça va être une des premières sur une très longue liste de condamnations à mort qui vont s'amplifier dans les siècles à venir, puisque vous connaissez la suite, parce que vous écoutez ce podcast. Voilà.
Ou pas. Mais même si vous écoutez pas, bon, vous êtes un peu au courant que. Ensuite, c'était un peu la mode de cramer des gens. Pour des raisons plus ou moins claires.
On peut les cramer, on peut les pendre.
On peut les pendre et les cramer ensuite.
Pour être sûr.
De l'eau, l'inverse, j'imagine.
Donc voilà, c'était une chouette histoire comme on les aime.
Ouais, Petronia, si tu nous écoutes. Cœur, cœur. C'était le pire hommage que j'ai entendu.
Là, je pense qu'elle est heureuse quand même.
C'était un joli
tout
prénom.
Tout hommage reste un hommage.
Ouais. Pas sûr.
Allez, remonte-nous le moral avec un petit peu de musique.
Oui. J'ai appelé cet épisode la magie du son. Parce que déjà, je n'avais pas d'inspiration et en plus, ça sonnait bien.
Ouais, t'as appelé carrément déjà l'épisode, ok, je note.
Ah ouais, bah ouais, ouais. Parce qu'en fait, c'est écrit sur mon document, épisode 24, 2.
Ok, et ben, je note, ça sera comme ça.
La magie du son, fit Petronia.
Fit Petronia, ok.
Du coup, toi, Louise, quand je te dis son et magie, c'est quoi le premier truc auquel tu penses?
Dans Fantasia, quand Mickey il fait avec tous les petits balais.
Oh, trop mignon. Okay.
C'est vraiment le premier truc qui m'est venu.
J'aime bien. Bah oui, c'est vrai que la musique, c'est le premier truc magique auquel on pense quand on pense à ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler musique, on va parler voix, tout court, incantation, trance, bol en cristal, bruit blanc, vibration, tout ça. Mais avant, petit retour en arrière, j'ai cherché quel est le plus vieil instrument de musique jamais retrouvé. Et,
c'est une flûte de...
Oui, flûte en os. Une flûte en os qui date de il y a 35 000 ans, donc c'est le milieu du paléolithique. Et bah, du coup, tout ça pour dire que ça fait quand même longtemps qu'on est très porté sur faire des bruits. c'est un peu notre truc et je pense que clairement on chante depuis qu'on existe parce que ben, c'est rigolo à faire même si c'est peut-être pas des chants comme on l'entend à toutes les époques comme on l'entend maintenant du moins du coup ça semble un peu être une constante chez notre espèce et
Tout comme ça semble être une constante d'avoir des coutumes, des rites, souvent en rapport avec des croyances, une foi, une religion organisée ou quelque chose qu'on estime aujourd'hui de magique. Du coup, forcément, quand on réunit les deux, ça match. Il y a beaucoup de sons et de bruits, de musique dans les pratiques magiques, spirituelles, religieuses. Déjà parce que le son, c'est un peu comme la magie dans le sens où c'est quelque chose qu'on perçoit mais qu'on ne peut pas toucher avec ses mains. Même si on sait qu'il y a des vibrations physiques qui existent, quand tu peux pas voir quelque chose et que tu entends une musique merveilleuse, tu ne peux que penser à quelque chose de divin et de merveilleux et de magique. D'où, mon premier chapitre un peu qui va être de parler de tout ce qui est chant, prière, incantation. Parce que c'est vrai que quand tu regardes des films et que tu vois des gens qui font de la magie, il y a toujours une petite prière.
Une manière de dire...
Ouais. C'est dans quasiment tous les sorts, si c'est pas quelque chose d'écrit, ou même quand il y a quelque chose d'écrit, généralement, c'est écrit qu'il faut le prononcer quand même à un moment donné. Et je pense que c'est parce que nous, les humains, on a tendance à penser que les choses n'existent qu'une fois qu'on les a dit. Ce qui fait plus ou moins sens, finalement. mais du coup, c'est quelque chose qui s'utilise tout le temps dans les pratiques spirituelles en général. Ça peut prendre plein de formes, donc chant, parole, une forme qui mélange les deux, comme les psaumes. Et là, je pense au sketch de John Mulaney, l'humoriste américain, qui dit que psaume, donc en anglais psalm, ça ressemble vaguement à une chanson, mais je cite, ça rime pas et c'est pas joli. je trouvais ça drôle. Il y a aussi des vocalises, donc sans mots, ou les you-you au Moyen-Orient, ou des chants de gorge qu'on fait avec sa respiration, comme chez les Inuits. Il y a plein de manières de faire du bruit avec son corps. Et tous ces sons-là, qu'on va produire avec nos cordes vocales, ils vont avoir des buts divers dans les pratiques spirituelles. Ça peut être soit demander quelque chose à un dieu ou une entité, donc comme une prière, soit demander à l'entité de venir, donc une invocation. Quand même l'audace de faire ça. Moi, je le ferai pas. jeter un sort mauvais ou bon avec une parole, donc une incantation. Demander à une entité de partir, une révocation. Et après,
c'est encore pire.
Oui, c'est encore pire. Je t'invite.
Parce que autant
viens,
inviter quelqu'un à venir
dans mon salon.
Ça se fait, mais une fois que la personne est venue, de dire maintenant tu repars.
Bye bye. Bon, il y a certainement d'autres formes que j'oublie, mais du coup, je pensais aussi, même si c'est pas exactement la même chose, les louanges qui servent à exprimer l'amour, la litanie, qui c'est encore plus fort qu'une prière, c'est vraiment là tu supplies la divinité de t'accorder le truc. T'as les lamentations qui servent à exprimer le chagrin. Mais en fait, dans ces cas-là, certes, c'est pas comme les cas précédents où tu cherches à faire apparaître quelque chose à l'extérieur, mais en fait, comme c'est des chants qui te servent à te faire sentir mieux et à partager un sentiment avec les autres, une émotion, en fait, ça crée quelque chose puisque ça te fait te sentir bien à l'intérieur. Ça crée un changement, une sorte de magie, mais à l'intérieur de toi, quoi. C'est juste que c'est pas visible. Bon, dans tous les cas, j'ai repéré qu'il y avait deux constantes à chaque fois. C'était que ces chants et ces paroles, il y avait une répétition tout le temps des mêmes choses. Et aussi que c'était souvent collectif. Ou alors qu'on on les disait en présence d'autres gens, ou qu'on les disait en même temps que d'autres gens. Pour le côté répétition, je trouvais ça intéressant, parce que le fait justement de répéter des phrases ou des mots, c'est un motif récurrent, sans mauvais jeu de mots, dans tout ce qui est prière, invocation, les sorts, même jusqu'aux chansons en fait. Mmh. Et déjà, je pense que c'est dû au fait que ça les rend plus faciles à retenir, bien entendu. Mais ensuite, il y a quelque chose de très rassurant pour nous, je pense, d'instinctif, parce que ça nous fait du bien. Par exemple, c'est prouvé que si on aime réécouter les mêmes chansons en boucle, c'est surtout parce que notre cerveau, il aime, il reçoit de la sérotonine quand il connaît déjà quelque chose.
Ah, c'est rassurant.
Ouais, ouais. Mmh. Et en plus, il y a le côté cyclique. Du coup, t'as l'impression de te rendre la chose familière et qu'elle a toujours été là. Et je trouve que ça fait un peu ça avec les incantations, c'est-à-dire que à force de répéter la même chose, ça la rend vraiment réelle, tangible, comme si ça avait toujours été là. Si tu chantes, je sais pas, une chanson et que dedans t'as la phrase mille fois, t'as l'impression d'avoir toujours connu cette chanson et que je sais pas si ça te fait ça. Moi, ça me fait ça.
Ouais, non, si c'est vrai. Et puis t'as, du coup, t'as le côté aussi un peu presque transe de répéter
ouais,
un truc. T'as un rythme qui s'installe et tout.
Bah exactement, c'est un peu En magie, généralement, tu te sers des cycles, que ce soit les cycles des saisons, de la lune, etc. Je pense que nous, les humains, on aimerait bien ce qui est rythmique, cyclique, répétitif. C'est très rassurant. Et ouais, ça nous crée une forme de sentiment tellement d'apaisement que je pense que tu peux en venir à sentir quelque chose de magique. Et en plus, ça nous fait penser, je pense, j'imagine, au battement de notre cœur, de notre respiration. Toutes ces choses-là, c'est cyclique aussi. Et du coup, oui, pour en venir au côté un peu collectif de tout ça, je sais pas toi, mais moi, les chœurs dans les chansons, ça me fait un truc de ouf.
Ah, moi aussi, je regarde, j'adore les, comment on appelle ça, les chants a cappella et
Ah.
les chorales de chants a cappella. Je regarde très souvent des trucs sur YouTube de chorales de
Ça
chants a
m'obsède.
cappella et c'est hyper émouvant.
Mais oui, c'est ça en fait, c'est émouvant et c'est tellement bizarre à expliquer ça. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles les chants de religieux, d'église et tout ça se fait en chœur, parce
Mais
qu'il y a un truc qui se déclenche.
on parlait de ça l'autre jour avec mes parents. Quand tu es par exemple dans un stade où il y a tout le monde qui se met à chanter, mon père et moi on trouve ça émouvant. Même si c'est
Ah,
très mal
c'est
chanté et que la chanson est très nulle, le fait que tout le
étonnant.
monde à l'unisson se mette à chanter la même chose.
Bah, en fait, c'est ça qui est beau, je trouve, c'est que ça. Déjà, il y a le côté ça soude, ça rassemble, mais en plus de ça, c'est plein de voix qui créent une nouvelle voix qui n'existait pas avant, parce que quand les voix des gens se mélangent, ça fait vraiment une nouvelle voix qui n'a rien à voir avec la voix de tous ces gens. Et j'imagine aussi que l'effet de mimétisme, ça doit marcher aussi, parce que si on voit que le chant sacré, il a un effet sur quelqu'un, peut-être que nous, ça nous fait un truc aussi. Bah, c'est le principe de l'empathie.
Nous aussi, on fait tous la même chose.
Ouais. C'est vraiment. Ah oui, et c'est ça que je voulais dire. J'écoutais un podcast de Radio Nova que je vous recommande qui s'appelle La Potion, où dedans, en fait, le thème, c'est que la journaliste, elle interview des artistes sur le sujet de la magie, ce que ça représente pour eux. Et pas toujours, mais souvent, c'est quand même des artistes qui ont un lien avec ça, qui font des chants traditionnels, qui font des chants de la musique un peu trance, etc. Et à chaque fois, les gens, ils reviennent sur la même chose, qui est la force des voix quand elles sont ensemble, la force des chœurs. Et j'ai essayé de chercher des études, bon, j'ai essayé à mon niveau, bien sûr, j'ai pas passé des jours,
T'as
sur...
cherché sur moteur de recherche?
Oui, j'ai cherché sur un moteur de recherche et sur des trucs de recherche. De recherche, comment on dit?
Genre Cairn, tout ça.
Oui, voilà, ça, pour les universitaires. Et bon, j'ai certainement pas dû mettre les bons mots. Et en tout cas, ça a pas l'air d'être un sujet genre accessible au quidam, de savoir pourquoi est-ce que les chœurs, ça fait des choses à notre cerveau qui est agréable. Mais en tout cas, le fait aussi qu'on ne sache pas pourquoi ça nous fait ça, je pense que ça doit contribuer à ce truc un peu magique. Puis ça crée de l'écho en plus dans une pièce, ça crée de la vibration, bah, littéralement, parce que c'est des vibrations. Quand on est beaucoup dans une pièce à chanter ensemble et que d'un seul coup ça remplit la pièce, c'est quand même un truc de fou, c'est vraiment une apparition, quoi. Et ça crée justement, t'en parlais tout à l'heure, ça peut créer chez les gens un effet très fort, limite de transe. J'écoutais justement un des épisodes de La Potion où il y avait un artiste qui expliquait qu'il avait participé à une cérémonie, je sais plus exactement dans quel pays c'était, mais en gros, il y avait une femme qui était malade et il y avait bah, du coup des gens du village qui étaient venus pour lui chanter une chanson avec leur voix pour jouer des instruments et tout. C'était assez répétitif et le rythme s'accélérait. Et en gros, la meuf est rentrée en transe et il y a ce truc. Ça doit déclencher un truc dans le cerveau, presque comme de l'hypnose, quoi.
Ouais.
Ah oui, et du coup, en fait, c'est organiser mon document, mais j'ai l'impression de me laisser surprendre par ma propre organisation, ça n'a aucun sens. Je voulais donc en venir à la méditation slash transe, parce que...
Ah mais ça tombe bien, tu viens d'en parler.
Oui! Bah j'ai fait une transition qui était un peu longue, bon,
Ah,
voilà.
t'as fait transition.
Une transition, pouloulou!
Tu l'as?
Je l'ai, je l'ai. Du coup, pour certaines personnes, la relaxation et la contemplation que produisent ces sons-là, ça peut vraiment devenir une vraie méditation. Et ça, c'est intéressant pour les gens qui, comme moi, n'arrivent pas à méditer. Parce qu'on a beau parler de... On a beaucoup parlé de voix et de musique, mais il y a aussi... Donc ça, c'est des sons plutôt organisés. Mais il y a aussi des sons de la nature qui fonctionnent très bien pour ça. Des bruits blancs, c'est-à-dire vraiment c'est des bruits aléatoires de la nature qui vont produire une fréquence rassurante pour notre cerveau.
Ça va être la pluie, l'eau qui coule, le vent dans les branches, les vagues, et tout ça, c'est des sons réguliers, cycliques, on en parlait, donc rassurants, dans lesquels on peut vraiment se perdre au point que, je sais pas, on peut s'endormir, mais on peut aussi, parfois, entrer dans une espèce d'état de conscience modifié. Alors, il y a deux types d'états de conscience modifiés. Il y a les états de conscience modifiés qui t'arrivent comme ça et dont tu ne maîtrises pas. Et les états de conscience modifiés auto-induits, c'est quand tu recherches à être dans cet état-là. Et après, selon les croyances des personnes et leur culture, cette méditation, ça peut aller jusqu'à une forme de ce qu'on appelle hypnose ou transe dans le langage scientifique, mais qui, pour elles, ça peut être justement, je sais pas, être dans un autre plan astral, dans une autre dimension, revenir dans le passé, être dans le contact avec l'au-delà, revoir sa vie antérieure, ça peut être plein de choses qui sont vécues comme telles, en tout cas, par la personne. Et ça peut arriver dans des rituels, du coup, où il y a parfois des substances en jeu, comme avec l'ayahuasca, j'espère que je prononce bien, chez certains peuples amazoniens, mais aussi pas du tout, des fois, de substances en jeu, parce que apparemment le son, ça marche aussi tout seul. Et je confirme, moi, il y a vraiment des chansons où, franchement, j'ai vraiment eu l'impression d'être en transe, et c'est comme vraiment un état d'hypnose. J'ai essayé de m'auto-hypnotiser une fois et ça a quasiment marché, donc j'ai reconnu cet état. J'ai reconnu.
Je veux cette anecdote.
Eh ben écoute, je pourrais la raconter juste après si vous voulez.
Eh ben super, je note.
Et du coup, c'est pas mal des choses, ces états-là, en fait, qui arrivent dans des... Parce que là, j'ai parlé d'autres cultures, mais dans les domaines vraiment très occidentaux, genre les églises, c'est des choses qui arrivent dans des églises un peu... pas les églises standards, quoi. Les églises un petit peu évangélistes américaines ou des églises où on chante le gospel vraiment avec beaucoup de zèle. Du coup, dans ces transes-là, on parle de réactions physiques très très fortes. Tu peux avoir des tremblements. Parfois, il y a les yeux des personnes qui un peu qui partent, qui se révulsent. Donc, tu vois le blanc des yeux. Il y a plein de... Alors, il existe des documentations sur comment ça fonctionne les transes dans le cerveau pour ceux que ça intéresse. C'est assez facile pour le coup d'en trouver. Et l'idée, c'est que c'est une forme d'hypnose, quoi. T'es pas forcément inconscient pendant, tu peux avoir des souvenirs comme tu peux ne pas en avoir. Dans tous les cas, pour les personnes qui croient en la magie, sans forcément aller jusqu'à la transe, si on reste dans l'aspect méditatif, ça peut vraiment fonctionner. C'est-à-dire que tu peux faire une incantation pour aller bien, tu la chantes, peut-être que tu le fais avec d'autres personnes que t'aimes bien, tu la répètes, les voix se mêlent, tu as la satisfaction de partager un moment, et du coup, ça te fait du bien, fatalement. Donc, magique ou pas, c'est chacun voit midi à sa porte. Et il y a même des pratiques, en fait, qui se développent justement pour se servir de cet effet-là, dans vraiment, non seulement des trucs de bien-être, mais aussi de guérison. Parce que déjà, on sait que les mots qu'on prononce ont un effet sur notre cerveau. Par exemple, se dire des mantras, des paroles d'affirmation, ça aide à se persuader des choses et ça aide à changer du coup la façon dont on voit les choses, donc sa réalité. Tout comme par exemple quand tu fais une connerie, s'insulter et dire ah là là, je suis trop nul et tout, dans les moments où tu fais des bêtises, ça pousse juste à l'auto-dévalorisation et ça fait l'effet inverse. Donc dans cette optique là, les sons, les paroles, ça peut vraiment avoir un aspect littéralement magique / thérapeutique.
C'est même ce qu'on dit pour les gens qui ont des graves maladies d'essayer de positiver ou des choses comme ça, ça aide à guérir.
Ouais, tout simplement d'essayer de pas garder les choses en soi. Enfin, tu vois, dans le côté un peu magique de dire, si je dis quelque chose, elle existe. Si je dis que je vais mal et que j'aimerais aller bien, d'un seul coup, je peux le faire, en fait. C'est comme si c'est comme si tu disais une incantation et que soudain, ça devenait réel, quoi.
Ouais.
Et c'est pour ça qu'on va voir des psychologues, finalement. Oui, parce que du coup, dire quelque chose, ça le fait exister, mais taire quelque chose, ça le fait aussi disparaître. Ça peut être aussi très politique, ce discours-là.
Ouh là là.
De ne rien dire et de laisser les choses se faire, etc. Attention, c'est un podcast de gauche. Mais du coup, pour aller encore plus loin que ça, le son en lui-même... notamment les vibrations, émises par le son, ça aiderait à la guérison. Il y a des fréquences, par exemple, émises par les ronronnements, qui produisent plein d'effets bénéfiques sur le corps, notamment le rythme cardiaque, ça calme le stress, mais aussi, figure-toi que ça renforce la masse osseuse, Louise.
Oui.
C'est incroyable.
Excellente vidéo de la youtubeuse Syllabus, je ne sais pas si tu connais, qui fait de la vulgarisation scientifique et qui a fait une vidéo justement sur l'étude du ronronnement des chats. Et ils ont découvert notamment ce côté sur la masse osseuse en mettant des poules sur des plaques vibrantes. Et donc elle a un petit moment de à quel moment ils ont, enfin pourquoi les, on ne sait pas. Allez, on continue.
Très drôle. Oh, c'est très drôle.
Et du coup, j'imagine très bien la petite poupoule de « Oh, c'est sympa !»
Et ben oui, justement, les vibrations, c'est sympa. Et il n'y a pas que les chats qui produisent ces vibrations-là. Il y a des objets qu'on utilise, notamment dans les pratiques de sonothérapie, où en gros, on se sert de vibrations produites par les... Souvent, c'est des bols tibétains, parce qu'à la base, c'est une pratique bouddhiste. Qui est reconnu de plus en plus, il y a de plus en plus d'études qui confirment que ça fait du bien, même si les causes restent encore un peu floues. On ne sait pas exactement quelle fréquence, pourquoi ça fait du bien à tel endroit du corps ou à telle chose, mais en tout cas on remarque que ça fonctionne, et il y a même des hôpitaux où il y a des sonothérapeutes qui viennent pour se servir de bols tibétains pour accélérer la récupération après des opérations. Donc okay. J'imagine que...
Moi je crois que j'étais en train de récupérer après une opération, ça m'énerverait qu'il y ait un mec qui fasse des vibrations avec un bol juste à côté, mais chacun son...
Justement, j'écoutais un podcast très intéressant qui s'appelle La Biohackeuse, et il y a un épisode sur la sonothérapie qui est très intéressant, je vous conseille d'écouter, ça dure, c'est un peu long, ça dure une heure, mais c'est assez complet. Et du coup, la personne expliquait que c'est quand même, en même temps... La façon dont il tape, entre guillemets, sur le bol tibétain, c'est très doux, c'est très subtil, parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi, etc. Puis tu as différents bols qui font différentes vibrations à différentes fréquences. Et en même temps, ton corps, lui, il n'a pas l'habitude de ressentir ces vibrations-là à un degré important comme ça. Et du coup, ça peut être assez fort tout de suite. Donc les gens, ils vont progressivement. Et il y a même un moment donné où on peut te poser le bol sur toi et tu ressens vraiment les vibrations hyper fort et tout. Et apparemment, c'est très pratique thérapeutiquement pour les enfants qui ont du mal à se concentrer, les enfants qui ont un handicap, les adultes qui ont un handicap, pour plein de gens qui ont du mal avec le contact physique aussi. Parce que du coup, certes, c'est une vibration, donc c'est physique, mais on ne te touche pas forcément.
Ouais, c'est le bol qui touche.
Ouais, c'est ça, c'est comme un massage, mais des vibrations. Et ça a l'air assez incroyable. Et si vous avez écouté l'épisode sur la chirologie, quand je me suis fait lire les lignes de la main, Héloïse Méhard, qui donc m'a lu les lignes de la main et qui travaille au Café Contresort à Paris, elle fait de la sonothérapie aussi.
Et, elle sait tout faire.
Elle sait tout faire, elle est incroyable, elle joue de la harpe et tout. Allez voir son...
C'est vrai, elle sait vraiment tout faire.
Oui, mais attends, elle a appris elle-même à jouer de la harpe toute seule et tout.
Enfin, moi, c'est agaçant.
Non, c'est génial.
Non, parce que je suis jalouse des gens qui savent faire plein de trucs.
Ouais, mais en même temps, ça m'encourage. Et du coup, elle utilise des bols tibétains, mais elle utilise aussi d'autres instruments. Et elle utilise sa voix, parce que en sonothérapie, tu peux aussi, en plus de ça, utiliser la voix, le chant, et faire soit des chansons, soit des improvisations. Donc, et d'ailleurs, il y a aussi des séances qui se passent dans l'eau, où tu peux faire un bain sonore, littéralement. Là, t'as le bain sonore où genre tu prends un bain où c'est juste, c'est un bain dans le sens où t'es baigné par les sons et les vibrations. Mais il y a aussi des séances qui se passent dans l'eau. Et du coup, les vibrations, elles atteignent l'eau et elles passent par l'eau avant d'arriver vers toi. Et c'est peut-être un peu plus doux, j'imagine, ou en tout cas, c'est différent.
Est-ce que du coup, quand on est petit, je fais ça toujours maintenant, mais quand t'es sous l'eau et que tu t'amuses à essayer de faire deviner une chanson à quelqu'un d'autre, techniquement, tu fais...
Bah, c'est un peu le même principe, même si bon, t'as pas de méthode particulière. En tout cas,
tu fais juste hurler à la personne qui est en face de toi.
Exactement. Et aussi quand tu fais le om des bouddhistes, en fait, il faut faire le o dans ta bouche fermée et faire vraiment le son o très fort, et tu sens la vibration à l'intérieur de ta cage thoracique, et apparemment ça détend beaucoup.
Ouais.
Et je conseille de faire ça face à un chat et d'observer sa réaction, c'est hilarant.
Ah, on dirait des paquebots.
Oui, c'est vrai. C'est bien parce que moi je sais vachement il mettait la mouette. Donc si tu fais le paquebot.
Attends, on peut faire.
Vas-y, fais le paquebot. Si vous sentez les embruns, bah c'est mieux. De rien.
Alors, on est fatigué, c'est déjà le premier épisode de l'année.
Et c'est la fin.
Ah, ça finit sur des mouettes et un paquebot.
Oui, moi je trouve ça très beau. Le pouvoir finalement du son, c'est de pouvoir vous faire voyager, vous faire transporter. Est-ce que c'est pas un peu magique qu'on vienne de vous emmener à la mer ? Si.
Bah, j'ai beaucoup aimé cette chronique.
Bah, je suis ravie que ça t'ait plu.
Moi, c'était ça m'a fort très intéressant.
Intéressé de faire des recherches là-dessus et je pense que j'aurais pu faire une chronique très longue, mais écoute, ouais, c'est très intéressant comme sujet.
Tu écriras un article très long sur le sujet.
Bah, je pense que le jour où j'irai tester la sonothérapie, parce que j'ai trop envie. En fait, quand Héloïse Méhard m'avait lu Les lignes de la main, elle m'avait dit que pour... de ce que lui disaient mes lignes de la main, j'étais une personne angoissée. Et j'étais là...
Les lignes de la main ou juste toute ma personne qui te fait.
Du coup, elle me disait que pour les gens comme moi, la sonothérapie, c'était bien. Et du coup, je pense qu'un jour, j'irai faire une consultation. Et comme je la connais déjà et que j'ai déjà confiance, j'irai en faire chez elle. Et puis, je vous raconterai comme ça.
Petit reportage.
Oui. Qu'est-ce qu'il fallait que je raconte aussi en anecdote ?
Attends, il faut faire le jingle d'anecdotes.
Ah oui. Des anecdotes,
Anecdotes. Eh bien, raconte-nous, j'oublie aussi la fois c'était où tu as essayé de t'hypnotiser toute seule.
Ah oui. En fait, j'ai une amie qui essayait de se... Parce qu'en fait, elle a des problèmes pour dormir. Et du coup, elle écoutait des vidéos de méditation guidée et elle est tombée sur des vidéos YouTube d'un mec qui expliquait comment on pouvait s'auto-hypnotiser. Et donc elle m'a envoyé la vidéo, elle me disait « Ah c'est incroyable, j'ai eu des visions et tout, j'ai eu l'impression de remonter dans mon passé, de vivre une vie antérieure et tout, donc j'étais là-bas, je veux faire ça !» Alors, en sachant que moi, j'ai un niveau méditation zéro, donc que par exemple quand je fais du yoga, la partie méditation, en fait, ça m'énerve. Donc, je la skip. Ne faites pas ça. Après, voilà, il y a des choses qui me font méditer. Faire du puzzle, chanter, écouter de la musique, ça me fait méditer. Mais je ne peux pas méditer en faisant rien avec mon corps ou mes mains. C'est un enfer.
Je peux juste méditer.
Non, ça ne marche pas. Et donc, du coup, je me suis dit, je vais essayer. Et puis, je me suis dit, ça va tellement pas marcher. Et en fait, ça a un peu marché. Donc, ça m'a un peu... Déjà, j'étais un peu fière de moi parce que je pense, même si je n'ai pas peut-être réussi à m'auto-hypnotiser de beaucoup, en tout cas, j'étais en méditation à ce moment-là. Et du coup, le mec te dit, voilà, cette vidéo, je vais vous apprendre, machin et tout. Donc, il commence à parler avec une voix très lente et répétitive, machin. Et il te dit bien que ce n'est pas comme une hypnose dans le sens où tu peux sortir de ton état quand tu veux. Moi en plus j'étais sur mon lit, il y avait mon chat à côté de moi donc j'étais pas ultra concentrée, il faudrait que je réessaye un jour mais sans le chat. Et en fait à un moment donné j'étais dans un état très très décontracté et j'ai senti que mes paupières elles vibraient un peu, c'est-à-dire que j'avais les paupières fermées mais je sentais qu'elles papillonnaient un peu et que mes yeux bougeaient un petit peu comme quand tu dors et que tu rêves.
Ton sommeil profond, ça t'est...
Ouais. Je pense que j'étais un peu comme dans un état de pré-rêve, de vraiment juste quand tu vas peut-être juste t'endormir. Et moi, j'ai pas eu de vision particulière, ou pas plus que quand tu vas t'endormir et que genre tu perçois des ombres sur tes paupières et tout. Mais en tout cas, j'étais très décontractée et ça... j'ai l'impression que ça a duré 10 minutes. Sauf que la vidéo dure 2 heures. Et j'ai l'impression que ça a duré 10 minutes. Et ensuite, le chat m'a réveillée.
T'as peut-être vraiment dormi, ouais.
Non, j'ai pas dormi, j'ai écouté tout ce qu'il a dit, et je te jure, j'ai pas dormi. Parce que je sais, quand je me réveille, tu m'as déjà vu au réveil, c'est compliqué. Donc,
Oui, mais justement, t'as passé une bonne sieste pour une fois.
Ouais, mais ça m'a pas... ça m'a détendu, mais c'était pas une sieste, quoi.
Donc, voilà. Moi, ça m'arrive très souvent, parce que j'écoute des podcasts pour m'endormir, et ça m'arrive très souvent de... réaliser que je suis 3 podcasts plus loin et que je ne me rends pas compte de ce qui s'est passé et que je n'ai absolument aucune idée de ce que j'ai écouté. Mais ce qui est très bien parce que du coup, pendant une semaine, je peux écouter le même podcast et de toujours pas savoir de quoi il parle.
Et puis, quand tu trouves une voix qui t'apaise,
Exactement.
T'en fiches de ce
qu'elle dit. Exactement.
D'ailleurs, je conseille aux gens qui ont l'application Audible de télécharger les livres audio. Je crois que les deux premiers Harry Potter sont gratuits sur Audible quand on a l'abonnement. Le monsieur qui lit, le monsieur qui narre.
En français.
A une super voix, ouais, en français. Vraiment très efficace pour dormir.
C'est qui fait les Harry Potter en français ?
Bernard quelque chose, non ?
Bernard Giraudot.
Ah, j'avais bien que c'était Bernard. Ah, Bernard Giraudot. Eh ben, ça, je l'avais presque. Ça m'a traversé l'esprit, mais je me suis dit que ça devait pas être ça.
Voilà. Tu avais une autre anecdote, du coup ou...
Oui, mais je l'ai oubliée, du coup.
Ah, zut.
Bon, bah, c'est pas grave. C'était mon anecdote.
Si tu la retrouves, tu l'auras pour...
Pour la prochaine
pour le
fois.
Prochain. Alors, moi, j'ai une anecdote d'actualité.
Ah.
Plus ou moins. Alors, je ne sais pas si tu sais, aux États-Unis, il y a une tradition, entre guillemets, de construire des trucs improbables sur les bords des routes des petites villes pour encourager les gens qui font de la route à aller à faire des détours dans ces petites villes. Et ramener un peu de tourisme.
Okay.
Bah, t'as des régions où genre la spécialité c'est
genre
les, si la spécialité c'est la pêche dans la région, et ben ils vont faire une pêche de 10 mètres de haut et comme ça,
Qui
t'a passé sur l'autoroute pas loin, tu fais un petit détour à la pêche et puis du coup tu manges au diner qui est à côté quoi.
Ok, je vois, il y a souvent ça dans les films et les séries.
Voilà. Et donc dans la ville de St. James dans le comté de New York, il y a une grande sorcière de 30 pieds de haut, donc ça fait à peu près 9 mètres. Elle s'appelle Winnie the Witch. Et Winnie the Witch, elle fait l'actualité dernièrement parce que il y a un couple de la ville qui a monté un financement pour faire en sorte qu'elle soit rénovée. Parce qu'elle elle a été pas mal abîmée à la fois par le temps et par les tempêtes qu'il y a beaucoup aux États-Unis. Et alors, je vais t'envoyer une photo où on voit le couple et surtout où on voit Winnie the Witch qui a une tête, mais à mourir de rire.
Ah oui, effectivement.
Voilà.
Elle a pris cher.
Ouais, mais je crois qu'elle est comme ça depuis le début.
Bah, quand même, on sent qu'elle a des caties.
Et alors, ils ont quand même dû récolter 15 000 dollars pour pouvoir... faire la rénovation de cette sorcière, vu que il fait 9 mètres de haut, j'imagine que ça doit être assez cher à démonter, transporter, nettoyer. Ah, ça me paraît pas.
Ouais.
Alors, ce couple, fun fact, le monsieur est propriétaire d'une maison funéraire.
Oh, cool.
Et pour l'histoire de Winnie, elle a été construite par un. Ce qu'on a l'équivalent d'une jardinerie de la région qui faisait chaque année un événement pour Halloween. Et donc, une année, ils ont construit cette grande sorcière et ils la remettaient à chaque fois pour Halloween. Et puis, ils ont arrêté ces événements, mais ils ont laissé parce que bah, voilà, ça faisait l'événement.
L'animation.
Et tout le monde aime cette grande sorcière qui attire tous les habitants de la région.
Très cool qu'on ait des trucs comme ça en France aussi.
Et alors, fun fact, Winnie the Witch, c'est aussi le nom original des albums pour enfants que je vous avais conseillé dans l'épisode bibliothèque qu'on avait fait. Et en français, c'est Pélagie la sorcière.
Ah, je savais pas que c'était anglophone.
Eh bien si, je crois que c'est britannique, si je dis pas de bêtises, à l'origine.
Winnie.
Ouais, c'est ça, c'est britannique à l'origine. Et donc, la version originale, c'est Winnie the Witch, et la version française, c'est Pélagie la sorcière.
Ok, mais bah, je comprends pourquoi Winnie, parce que ça ressemble à Witch, mais Pélagie. D'où est-ce qu'ils sont allés chercher ça? Est-ce que Pélagie, c'est un mot qui veut dire un autre truc?
Non, je pense qu'ils ont juste cherché un prénom un peu original.
Pélagie. Pélagie est issue du mot grec pélagos, signifiant la pleine mer ou le large. Eh bien, ma foi, on aura appris quelque chose. Et il y a une méduse pélagique. Parce que du coup, elle est en pleine mer.
Eh bien, l'épisode culture.
Vraiment, on apprend de ces choses. Vous avez bien fait d'écouter.
Voilà, et donc du coup, Winnie the Witch fait l'actualité vu qu'elle elle vient de partir pour être rénovée. Donc normalement, elle devrait être rénovée et toute pimpante pour Halloween. Donc guettez sur les réseaux sociaux de la ville de Saint James pour voir la nouvelle version. Voilà, un peu comme nous, c'est vrai, à la fin de l'été où on est complètement décrépit par la chaleur, oui. On se refait une beauté avec l'automne pour être prête pour Halloween.
Ça me semble adapté à la situation.
Eh bien, c'était un bel épisode de rentrée.
Oui. Bravo à nous, bravo à vous d'être restés.
Voilà.
Jusqu'au bout, même après qu'on ait arrêté de dire des trucs intéressants. Ah, il y a encore une anecdote, j'aime bien.
Ouais. Pendant les vacances, où donc j'étais en vacances avec Marion, j'ai souffert de 37 piqûres de moustiques sur une semaine de vacances. Et même pas une
c'est
semaine.
C'est ça ton anecdote?
Oui.
Ça n'a pas de rapport avec le.
À partager ma malchance au monde. Surtout que toi, t'en as eu genre 5.
Oui, mais on a passé les vacances à essayer de chercher et de comprendre c'est quoi les causes, les raisons. Et on sait toujours pas parce qu'il y en a plein. Donc ça peut être plein de choses.
Et pourquoi il m'aime autant? La seule chose qu'on sait, c'est que je ne suis pas une.
Mais d'habitude, c'est moi en fait. C'est ça qui est drôle. C'est ça qui est drôle.
Donc c'est pour vous dire à quel point je les attire. C'est que Marion, étant d'habitude quelqu'un qui attire les moustiques, elle a réussi à se faire. Doublé par les puissances de mes phéromones.
C'est assez terrible, mais grâce à toi, j'ai survécu. Merci.
De rien, écoute, je l'ai payé de mon corps, mais.
De ton sang.
De mon sang, voilà. Et donc, c'est pour vous dire que maintenant, je suis un vampire.
J'ai retrouvé mon anecdote, mais c'était une petite anecdote, donc je peux la dire vite fait.
Ah bah vas-y, fais-la.
C'est que. Cet été, bon, je l'avais posté en story, mais je me dis que peut-être il y a des gens qui ont oublié. Il y a aussi certainement des gens qui ne nous suivent pas sur Instagram, même si vous devriez le faire, parce que des fois, on met des trucs cool. J'ai retrouvé, en faisant du tri, mon carnet de bord quand j'avais été en Angleterre pour la première fois en 4e. Avec ma classe, on était allé à York, dans le Yorkshire, et on était passé par une petite ville aux alentours. Et j'ai retrouvé une carte postale de... la grotte de Mother Shipton. Et j'en ai aucun souvenir. Donc, ma théorie, c'est que comme j'ai quand même des souvenirs d'autres trucs, je pense que je m'en serais souvenu. Ma théorie, c'est que j'ai dû prendre cette carte postale dans un office du tourisme.
Ah, vous êtes passé dans un endroit pas loin et t'as acheté.
Et je pense que je suis passée pas loin de la grotte de Mother Shipton.
Ah.
Et d'ailleurs, j'étais allée visiter à Scarborough, donc une ville à côté.
Scarborough Fair ?
Sûrement.
La chanson de Simon & Garfunkel.
Je la connais pas. Mais oui, il y a une foire. Parce qu'en fait, c'est une ville balnéaire où t'as un casino. Donc il y a un côté hyper... Il y a des foires, il y a des attractions et tout. Et t'as des ruines d'une abbaye ou un monument dans le genre, pas loin. Et soi-disant, la meuf qui nous avait fait visiter était là. Ouais, ce serait là qu'il y aurait la tombe de Dracula et tout.
Pourquoi il serait là?
Ça n'a aucun sens. Dracula, il peut pas mourir, en fait, je vous rappelle.
Ah oui, c'est ça qui te... Ok. Moi, c'était plutôt le côté géographique, mais...
Bah après, il a voyagé, c'était quand même un conte. Donc, il aurait pu naître en Roumanie, mais mourir... Le château de Dracula en Roumanie, je veux trop y aller.
Cet été, sur France Culture, ils ont rediffusé... ils ont fait des émissions, les grandes figures de l'histoire, et ils ont fait une série sur, du coup, Vlad l'Empaleur et Dracula.
Oui, je l'ai enregistré, je ne l'ai pas encore écouté.
Ah bah voilà, conseil aussi. Dis donc, on ne s'arrête plus sur les anecdotes.
Ah vraiment, on est à fond.
En même temps, on a tout l'été rattrapé, donc vous avez de quoi faire.
J'espère que vous avez pris des notes.
Bon, je pense qu'on est quand même obligé de s'arrêter là, parce que qu'il est tard. Qu'on est fatigué, on n'a plus l'habitude, on est fatigué.
Moi, je n'ai pas encore mangé, j'ai faim, et il est... 21h02.
C'est pas on va faire la conclusion.
Oui. Quelle est la conclusion?
Que les gens peuvent nous retrouver sur les plateformes de podcast qu'ils préfèrent et aussi sur Twitter, Facebook, Instagram.
Que on remercie Moon and Sun pour la musique.
et aussi Craig, notre ingé son, dont on vous parlera peut-être un jour. Merci Craig.
N'oubliez pas de rester magique.